avenue à Fort-Héroclès-l'Élysée.
Ouais, tu le fais mieux que ton fils. Bonsoir. Dans le Sefort et Reclus à l'Élysée, nous sommes très heureux de recevoir aujourd'hui Pierre Rimbert, donc qui est journaliste au Plan B, qui a réalisé aussi le film...
Alors, il a participé au film, je ne pense pas qu'il l'ait réalisé.
Oui, pardon, mais... c'est pareil.
C'est Damien Douagneau, le réalisateur.
Il donnera des précisions.
Et donc, qui a participé à ça. Donc, et qui a aussi écrit... Il l'a bien écrit, c'est pas...
C'est pas un autre.
C'est pas un aigre, c'est bon, c'est sûr. Donc, Libération de Sartre à Rothschild, aux éditions Raison d'agir. Donc, on va parler de tout ça, du plan B, du film qu'il n'a pas réalisé, mais auquel il a participé, et du livre. Voilà, un petit peu de musique. Et reclus à l'Elysée sur 102.3 FM et 95.9 sur Radio Plaisance. Donc, nous sommes nombreux dans le studio, ça fait plaisir. Donc, nous sommes toujours en compagnie de Pierre Rimbert et de Jacques qui vont nous parler du plan B. Donc, déjà, c'est quoi le plan B pour les gens qui ne connaissent pas ?
Alors, le plan B, c'est un journal papier qui a été fondé en mars 2005, au moment du mouvement anti-précarité. Et c'est un journal qui a la particularité d'informer sur les médias. Bon, il y a deux dimensions dans le journal. Il y a une dimension enquête sociale et une dimension critique des médias. Et c'est une publication qui prend la suite d'une qui était plus ancienne, qui s'appelait Pour lire pas lu. Elle avait été fondée en 2000 avec Pierre Carle, notamment, au moment du procès de José Bové, du rassemblement de Millau, en juin 2000. Donc ça fait maintenant presque 7 ans.
D'accord. Très bien. Donc.
Oui, et donc, en fait, c'est deux journaux, c'est plusieurs journaux qui sont réunis pour faire le plan B. Hein. Donc,
voilà, il y avait un journal qui s'appelle Fakir, qui est un journal d'enquête sociale, l'une des formes de presse locale, comme il y en a un peu maintenant partout en France, dans presque chaque région, qui enquête sur des choses dont la grande presse ne parle pas. Par exemple, Fakir avait pu consacrer 9 pages ou 10 pages à un accident du travail. Alors les accidents du travail, c'est typiquement le genre de choses dont la grande presse ne parle pas. Et dans le plan B, on fait régulièrement des comptages pour mettre en regard les faits divers, qui sont le nutriment essentiel de la grande presse, hein, dont on vous parle en permanence, et puis d'autres faits qui sont tout aussi importants, mais dont la presse ne parle pas. Par exemple, dans le dernier numéro qui vient de sortir, on a mis en regard d'un côté la mort d'un employé qui a été écrasé par une palette chez Elvena à Montpellier. C'était le 16 avril dernier. Alors, vous regardez, dans Libération, il n'y a rien. Dans Le Monde, il n'y a rien. Dans Le Figaro, il n'y a rien. Dans Aujourd'hui en France, il n'y a rien. Dans Sud-Ouest, il n'y a rien. Et donc, au total de ces 5 grands médias, il n'y a rien. De l'autre côté, vous mettez en balance la mort d'un policier à la Foire du Trône à Paris, au même mois, pendant le mois d'avril. Alors, dans Libération, vous avez 6 articles et une brève. Dans Le Monde, 5 articles et une brève. Dans Le Figaro, 4 articles et 9 brèves. Dans Aujourd'hui, 11 articles et 2 brèves. Dans Sud-Ouest, 3 articles et 4 brèves. Donc, au total, d'un côté, un accident du travail, rien, dans ces 5 médias, et de l'autre, 29 articles et 17 brèves.
Combien de policiers que couvriers alors ?
Voilà, là, l'information sociale, en quelque sorte, a pris place à bord du train fantôme de la Foire du Trône à Paris. Et donc, c'était un petit peu pour lutter, pour s'élever contre cette espèce de disproportion où, d'un côté, on a une couverture invraisemblable de tout ce qui est faits divers, anecdotes, trucs crapuleux, sexuels, etc. Oui. Et de l'autre côté, une violence sociale et économique qui est endémique. Il faut rappeler, hein, 750 morts d'accidents du travail hein, chaque année, plus presque autant de gens qui meurent sur le trajet domicile-travail. C'est une quantité très importante. C'est une violence extrême, la violence économique, mais qui, elle, est quasiment absente de la presse. Et justement, il existe des tas de petits journaux locaux qui enquêtent sur cette violence-là, dont la grande presse ne parle pas. Et au nombre de ces petites publications, il y a Fakir, ce journal qui est basé à Amiens et qui informe sur l'information sociale, sur les faits sociaux en Picardie. Et bon, il se trouve qu'on connaissait l'équipe de ce journal et qu'avec PLPL, donc Pour lire pas lu, cette publication qu'on avait fondée en 2000, qui, elle, était essentiellement centrée sur la critique des médias, nous avons décidé de fusionner pour faire un journal à deux dimensions, d'un côté critique des médias et de l'autre enquête sociale.
Très bien.
Est-ce que tu pourrais nous expliquer la manière dont le plan B est perçu par les grands médias, précisément, dont vous faites la critique et que vous n'hésitez pas donc à mettre en cause hein, quant à leur ligne informative ou éditoriale hein, je ne sais pas ce qu'il faut en dire. Mais voilà, est-ce que vous avez un retour de la manière dont vous pouvez être perçu ?
Mais on sait que qu'il est lu, mais la perception, on n'a pas de retour précis. Quelque chose me dit qu'elle est exécrable. Hein. Ouais, parce qu'évidemment, la ligne du journal, c'est de relever tous les manquements, la désinformation, les choses qui ne sont pas dites, celles qui sont dites en permanence, par exemple aussi les copinages, les connivences, les complaisances. Quand vous avez un grand journaliste qui écrit un livre, que ce soit un essai politique ou un roman, vous avez la quasi-certitude que l'ensemble de ses confrères va le célébrer sur les ondes, dans les colonnes, etc. C'est ce qui se passe en ce moment pour le livre de Franz-Olivier Gisbert, qui s'est piqué d'écrire un roman sur la pègre marseillaise et qui est invité absolument partout. Il y a fort à parier que s'il s'était appelé... Robert, et qu'il n'était pas connu, ce livre se serait passé tout à fait inaperçu.
Ça, c'est sûr. Surtout aussi. Mais justement, c'était marrant, c'est que je vais revenir un peu sur les élections, je sais que c'est embêtant, mais justement, ça a été le grand truc des médias, parce que là, on s'en est bouffé quand même pas mal, et ça a été le grand truc de démocratie parfaite, puisqu'on avait sans question pour Sarkozy, sans question pour Royal, sans question pour tout ça, et que les médias, en fait, non, ils n'ont plus tous les pouvoirs, ils n'ont plus du tout cette connivence avec les politiques, qu'ils sont complètement indépendants, et que, en fait, c'est vachement bien, parce que la parole du peuple est reprise dans ces émissions de télé, ou même de radio, d'ailleurs, puisqu'il y a des libres antennes avec des questions et tout ça. Et donc, voilà, quoi. Et donc, j'aurais voulu savoir ce que vous en pensiez.
Oui, alors d'abord, je pense que vous savez aussi bien que moi, Les 100 personnes qui étaient censées représenter toutes les autres avaient été au préalable sélectionnées par un institut de sondage qui, la Sofresse.
C'est celui de Parizeau ?
Non, Parizeau, c'est l'IFOP.
C'est l'IFOP.
Bolloré, c'est le CSA. Alors, quand il y a un sondage CSA, par exemple, au hasard, sondage sur la perception des Français de l'escapade de Sarkozy dans l'iode de Bolloré, il faut savoir que Bolloré est aussi le principal actionnaire de l'institut de sondage qui a réalisé ce sondage. Ça aide à mieux interpréter les résultats.
Absolument.
Alors, ce qui était intéressant dans cette émission avec les 100 Français qui posent des questions aux candidats, ça a été la réaction des journalistes. Parce qu'ils ont dit « c'est scandaleux, il n'y a plus de journalisme politique
oui, ».
Et donc,
c'est ça.
Les questions sont des questions personnelles. Sous-entendu, les préoccupations personnelles qui peuvent être des préoccupations alimentaires, matérielles, n'ont pas d'intérêt dans une campagne électorale. Il vaut mieux avoir des préoccupations du type « est-ce qu'on est en démocratie ?» Enfin, les grands sujets qui font saliver de bonheur les éditorialistes. Et la réaction des journalistes a été très drôle, c'était de dire on a un problème. Puisqu'il n'y a plus de journalistes pour poser les questions aux candidats, mais que ce sont des Français banals qui posent les questions, on ne peut pas rectifier les erreurs ou les inexactitudes dans les réponses des candidats. Et dans le... Ce que les journalistes disent, nous, c'est ça notre rôle, évidemment, voilà. On ne laisse rien passer.
On est garant.
Voilà, et dans l'avant-dernier numéro du Plan B, on avait fait le relevé quasiment notarié de toutes les inexactitudes, les erreurs qu'avaient laissé passer les journalistes dans les émissions où eux étaient les intercesseurs auprès des politiques. Et on s'aperçoit très vite que les journalistes laissent passer évidemment autant d'inexactitudes et d'erreurs lorsqu'ils sont là que lorsqu'ils sont absents.
Voilà.
Oui, ça me fait penser aussi justement sur notre radio, c'était sur RMC, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était... En plus, il y avait Sarkozy et Royal, chacun leur tour, quoi, qui était invité. C'était par rapport au nucléaire. Et les deux, c'était gouré. C'était assez marrant. C'est le journaliste leur fait la morale en disant non, mais c'est pas ça. Mais en fait, lui aussi, c'était gouré. C'était ça qui était assez marrant. Il faisait la morale aux autres en disant.
Il rectifiait, mais lui-même rectifiait par une erreur, quoi.
Il rectifiait par une erreur.
Sur les porte-avions, je crois, c'est ça.
Les sous-marins nucléaires.
Il s'avait répondu 7 alors que c'était 13 et l'autre il a dit non, il y en a que 15, enfin je sais plus, c'était un truc comme ça.
Il y a une deuxième dimension qui était intéressante, il m'a semblé dans les 15 jours qui ont précédé le premier tour, ça a été l'espèce de colère noire des journalistes contre l'obligation d'égalité de temps de parole.
Oui, c'était un très très grand débat ça.
Alors ils ont dit c'est injuste, c'est antidémocratique, puisque les petits candidats ont le même temps de parole que les gros.
Voilà.
Donc c'est un scandale, donc c'est antidémocratique.
Voilà.
Et c'est très intéressant cette remarque, parce qu'elle a été universelle, hein, de Franz-Olivier Gisbert, donc directeur du Point, à Claude Imbert, qui est chroniqueur dans le même hebdomadaire sarkozyste. Hein, d'ailleurs, vous savez que la directrice du service politique de ce journal vient de se faire embaucher à l'Élysée.
Oui, c'est ça.
Donc, tous les éditorialistes se sont élevés, ont trouvé scandaleux qu'on laisse le même temps de parole 15 jours tous les 5 ans à des candidats qui vont faire de 2 à 5 %. Et alors, c'est intéressant parce que là, on a l'illustration que lorsque quelque chose ou quelqu'un conteste le monopole de la distribution de la parole publique que revendiquent les journalistes, parce que les journalistes ont le monopole de la distribution de la parole publique, c'est eux qui disent « toi tu parles, toi tu la fermes ».
Clairement.
Et là, 15 jours, tous les 5 ans, il y a un texte de loi qui leur dispute ce monopole. Le texte de loi dit non, la distribution de la parole, c'est comme ça. C'est chacun a droit à temps pendant 15 jours. Alors, c'est pas énorme, 15 jours, tous les 5 fois 365, ça leur laisse quand même une assez grande marge de manœuvre. Eh bien, non, ça les a rendus noirs de colère.
C'est leur manière, eux, peut-être, de nous expliquer la différence entre équité et égalité.
Voilà, exactement.
Hein, c'est ce nouveau langage qui apparaît, ouais, clairement.
Il ne faut pas les castrer comme ça, les journalistes. Ouais. Ils ne s'aiment pas. 15 jours, là, c'était trop déjà.
Oui, oui. Je voulais vous demander aussi, la distribution du plan B a été facile ou il y a eu quand même des difficultés au départ ou parce qu'on peut trouver partout, en plus, en magasin, dans les. Enfin,
moi, j'arrive à le voir
dans les kiosques. Enfin, moi, j'arrive à le trouver dans un supermarché, quoi.
Oui, on a eu. Alors, la diffusion du plan B, elle est assurée par trois canaux. Il y a d'abord les abonnés. Parce que quand vous lancez de la presse alternative, le pilier, les bases, la fondation, c'est l'abonnement. Quoi. Parce que les gens qui acceptent de payer 20 euros là, pour 10 numéros permettent d'accumuler une petite trésorerie qui elle-même permet d'aller de l'avant. Donc ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est la diffusion militante et les librairies alternatives. On a tout un réseau de diffuseurs militants qui achètent des numéros. Donc là, dans le cas d'espèce, c'est à moitié prix et qui les revendent sur les marchés, dans les manifs, dans les réunions publiques, etc. Des libraires qui sont en général des libraires alternatifs, hein, c'est pas la FNAC.
Oui, non.
Le troisième pilier, c'est les kiosques. Les maisons de la presse, enfin les marchands de journaux. Et là, quand vous lancez un journal, vous avez grosso modo deux solutions. La première, c'est les NMPP, les nouvelles messageries de la presse parisienne, qui est le distributeur qui a à peu près 90% du marché. C'est celui qui distribue, par exemple, les quotidiens, etc. Alors leur rôle, c'est d'apporter les lots de journaux et puis de les ramener, de rapporter les invendus le lendemain. Et c'est un service qui est assez onéreux, qui, grosso modo, coûte la moitié du prix du journal. Et vous avez un autre prestataire, quoi, qui est les MLP, les messageries lyonnaises de presse, qui nous distribuent. Et là, ils ont été vraiment sympas. On est tombé sur une personne qui s'appelle Claire Philippe et qui a accepté de mettre en kiosque un très grand nombre de journaux. Ce qui fait que quand vous démarrez avec un très grand nombre de journaux, vous avez plus de chances que les gens tombent dessus et puis l'achètent, sachent que ça existe. Parce que c'est le gros problème dans un journal alternatif, c'est que les gens sachent que ça existe. Dans le cas du plan B, la tâche est rendue encore plus difficile par le fait que, étant un journal de critique des médias, vous avez la quasi-certitude que les médias n'en diront pas un mot.
Voilà. Là,
donc lorsqu'un nouveau numéro sort, personne n'est au courant. Et si le journal n'est pas chez les marchands de journaux, visible dans les kiosques, etc., personne ne peut découvrir son contenu.
Et avoir accès, ouais, c'est sûr. Une petite pause musicale et on revient tout de suite après.
Ben, la seule solution, c'est la mondialisation. Hein.
Entendant les villes, les campagnes, les chants des multinationales qui sans pitié livrent bataille, mettent des milliers de gens sur la paille. Vas-y José, fais-leur si honte.
Vas-y José,
ces enculés nous doivent des comptes.
Vas-y José,
contre pas ferment leur gueule. Nous on résiste, on n'est pas seuls. Ton économie libérale, tu peux de la carrer dans le trou de balle. Vas-y José, fais-leur si honte. Ces enculés nous doivent des comptes.
Vas-y José.
La fromagerie
avant que ne sonne le glas.
Manifestons encore une fois.
La garde meurt mais ne se rend pas. Vas-y José, fais-leur si honte.
Vas-y José.
Ces enculés nous doivent des comptes.
Contre nous de la tyrannie.
Donc pour faire une transition sur le film, mais on peut revenir sur le plan B pour aussi pour compléter si vous avez des précisions à apporter, et puis sinon on parle un peu du film et puis voilà. Donc alors, allez-y gérer.
Donc José Bové et le cirque médiatique, hein, c'est le titre de ce film. Bon, il a été conçu pour quelle raison ce film et de quelle manière, si tu peux nous en dire quelques mots.
Alors ça, il faudrait demander à Damien Douagneau, qui en est le réalisateur, qui est un proche de Pierre Carle, qui s'est un peu aussi inspiré et qui a su prolonger un peu le travail qu'avait réalisé Pierre Carle avec ses films Pas vu, pas pris. Donc une critique des connivences entre grands directeurs de l'information en France et Enfin pris, son autre film sur les médias, qui essayait de montrer qu'il était pratiquement impossible de critiquer la télévision à la télévision.
Il était venu le présenter à Périgueux, d'ailleurs.
Voilà. Et le film de Damien Douagneau pose une question qui est doublement intéressante à mon sens, qui est la suivante, c'est quel risque prendrait une organisation ou des contestataires dont la ligne politique serait d'essayer de séduire les médias pour obtenir une audience maximum. Et c'est une question qui est assez intéressante parce que d'abord personne ne se la pose et tout le monde ensuite fait comme si elle ne se posait pas. Il y a des tas d'organisations politiques qui estime que c'est une bonne tactique d'aller dans les médias, mais à force de faire des concessions tactiques, ça finit par devenir leur stratégie à long terme, d'assurer une présence dans les médias. Et la question qu'essaye de poser le film, c'est d'abord pour quel résultat, et ensuite à quel prix.
Voilà. À quel prix moral, à quel prix politique
À quel prix politique À quel prix politique, parce que on peut penser que c'est important et même nécessaire d'aller dans les médias pour faire connaître son discours, quand on est une petite organisation ou une association. Et c'est vrai que ça tombe un peu sous le sens. On se dit, tiens, mais si on va pas dans les médias, qui saura qu'on existe ? On peut penser même qu'il est important d'aller dans des émissions de divertissement, parce que comme ça, on pourra toucher un plus large public de gens qui sont pas... Alors, si on file jusqu'au bout ce genre de réflexion, on se retrouve un petit peu dans la position d'Olivier Besancenot, le porte-parole de la Ligue communiste révolutionnaire, qui était aux grosses têtes de Philippe Bouvard dans cette émission... ludique de RTL, qui est caractérisé par
ludique est
mystère, c'est homophobe, machin,
sexiste, raciste, tout
de ces divertissements, donc sur RTL. Et on peut se demander, voilà, alors c'est intéressant d'aller diffuser son discours aux grosses têtes, mais à quoi ça sert ? Est-ce que c'est efficace ? Et c'est l'une des questions que pose Damien Douaniau dans son film. Et il y a tout de même quelque chose d'assez frappant, c'est que cette stratégie médiatique, et c'est pas seulement des organisations politiques telles que celles qui se sont présentées pour les élections, là, c'est plus largement, ça peut être aussi des associations de précaires et de chômeurs qui sont confrontées à ce genre de difficultés, avec d'un côté, si les médias ne parlent pas de nous, comment va-t-on faire savoir qu'on existe ? Et de l'autre côté, si nous dirigeons notre stratégie pour attirer l'attention des médias, sera-t-on capable, à long terme, de conserver la ligne politique qui avait déterminé, au début, notre action ? Et le film explore un peu les deux côtés de la barrière, c'est-à-dire, d'un côté, bah oui, si on est nulle part, personne ne sait qu'on existe, et si on devient de la chair à canon médiatique,
voilà, c'est ça.
Alors on cesse de travailler au renversement du rapport de force, qui était tout de même le but initial qu'on s'était fixé.
Avec toutes les caricatures que ça peut donner, et justement le retournement de discours, et oui, tout ça.
Voilà, et alors le film l'illustre avec le cas de José Bové. Alors c'est pas du tout un film à charge contre José Bové, puisque le réalisateur part d'un point de vue tout à fait empathique, quoi, avec José Bové, qu'il est allé voir, qu'il interviewe à plusieurs reprises pour lui demander un petit peu, mais alors dites-moi comment ça se fait, là vous êtes allé chez Ardisson, pourquoi, etc. Bon. Et il va voir aussi, ce réalisateur, un certain nombre de journalistes, de France Info, de France 2, de RMC, qui, de leur point de vue, lui expliquent pourquoi eux-mêmes vont toujours voir Bové. Et il y a des passages qui sont assez truculents. À un moment donné, il y a le congrès de la Confédération paysanne qui vient de nommer deux porte-parole.
Donc c'est plus du tout José Bové.
Et c'est plus José Bové. Et vous voyez les journalistes se précipiter comme une nuée sur José Bové. Et lorsqu'ils condescendent enfin à remarquer qu'il y a deux nouveaux porte-parole, la seule question qu'ils sont en capacité de poser à ces deux porte-parole, c'est alors qu'est-ce que ça fait de succéder à José Bové ? Et ce qui est intéressant, c'est que le propos initial de la Confédération paysanne, dans le cas d'espèce, est totalement occulté par le spectacle donné par le remplacement des porte-paroles. Donc là, la question, ça n'est plus de savoir quel message, quelle action politique, quel renversement des rapports de force veut produire la Confédération paysanne dans son champ d'action, mais quelle personnalité va occuper le devant de la scène médiatique.
Est-ce qu'ils auront des moustaches comme lui ou pas ou...
La question des moustaches est l'une des plus abordées par les journalistes, puisque évidemment, l'une des dimensions la plus périlleuse de la stratégie médiatique, c'est la personnalisation. Quand vous avez un mouvement collectif et qu'un porte-parole va capter toute la lumière des projecteurs sur sa personne, il va devenir une vedette. Et peu à peu, plus il ira dans des émissions de radio ou de télévision qui sont des émissions de divertissement, plus les animateurs lui poseront des questions sur sa personne, sur ses goûts personnels, sur son enfant, sur ses aventures, sur sa vie sexuelle, etc. Et moins cette personne sera interrogée, et donc aura l'occasion de répondre, sur les combats que l'organisation, qui au début l'a mandaté pour les représenter, sur les combats, sur le point de vue, sur la stratégie et le programme de l'organisation qui au début l'a mandaté. Et il faut ajouter que les porte-paroles de la contestation et les collectifs contestataires sont tout à fait conscients du problème. Mais et c'est d'autant plus surprenant qu'ils n'abordent pas la question, mais ils savent que cette question se pose.
Mais est-ce qu'en quelque sorte, c'était déjà pas avant, justement, comme avec Che Guevara, quoi, où tout le monde porte des t-shirts, tout le monde connaît, mais si tu commences à parler de ce qu'il voulait lui, il y a plus grand monde à part que... Donc est-ce que ça n'a pas déjà commencé avant les médias, l'icône, quoi, en fait, toujours eu besoin d'une icône pour faire peur peut-être aussi d'un côté, peur aux gens. C'est plus facile de faire peur en démontrant une icône qu'une masse.
Oui, absolument. Cela dit, il faut voir aussi que cette question, elle ne s'est pas posée, comme tu dis, hier. Elle se pose depuis maintenant 40, 50 ans. Mmh. Elle a commencé à se poser notamment, dans les mêmes termes qu'aujourd'hui, pendant le mouvement pour les droits civiques aux États-Unis. fin des années 50, début des années 60. Et puis, pendant le mouvement des étudiants radicaux américains, où là, vous aviez exactement le même, la même problématique, un mouvement très actif, dont toute l'image a été captée par un ou deux représentants. Mmh. Et il y a un sociologue américain qui s'appelle Todd Gitlin, qui avait étudié cette personnalisation et qui avait fait toute une étude sur la manière dont la personnalisation de ce mouvement des étudiants radicaux américains avait entraîné une distorsion de la ligne politique elle-même. C'est-à-dire qu'à force de personnaliser l'action et d'orienter toutes les actions vers les médias, vers la captation des médias, le mouvement avait en quelque sorte été victime de l'image que les médias donnaient de lui. C'est-à-dire que les médias américains donnaient du mouvement des étudiants radicaux une image de fumeur de joint défoncé sur le gazon des campus universitaires. Et du fait de cette image, c'était des étudiants défoncés, etc., qui venaient, et non plus des militants qui étaient plus politiques. Enfin, il n'y a pas une contradiction entre la défense et la politique, mais enfin, bon, dans le cas d'espèce, c'était ce que Todd Gitlin avait relevé. Et dans le même mouvement, ce sociologue-là faisait un parallèle qui est assez éclairant entre l'aliénation du travailleur par rapport à ce qu'il produit et l'aliénation du militant par rapport à la représentation médiatique de son action. Et Todd Gitlin disait, je le cite, « Les travailleurs n'ont pas voix au chapitre quant à ce qu'ils produisent, comment ils le produisent, ni sur la manière dont le produit est distribué et consommé. De même, les militants, en tant que producteurs de sens, n'ont pas voix au chapitre quant à ce que les médias retiendront de ce qu'ils disent ou de ce qu'ils font, ou quant au contexte dans lequel leur action sera présentée. Une fois médiatisée, la signification de leur action acquiert une réalité qui leur échappe et leur revient à la figure comme une force étrangère. » Oui. Et c'était, alors évidemment, l'aliénation du travailleur est porteuse de plus de violence sociale que l'aliénation du militant par rapport à la représentation de son action, mais ces deux types d'aliénation vont dans le même sens.
Oui, c'est ça. Et c'est pareil, avec, on a vu avec les enfants de Don Quichotte, par exemple, aussi, de la personnification et tout, de la ressemblance qu'il pouvait avoir avec l'abbé Pierre, de...
Non, mais c'est... Oui, je sais, oui, j'ai entendu ces choses-là.
Et par exemple, justement, on va parler de ça, mais par rapport aux émeutes de banlieue, là, il n'y a personne.
Oui, alors justement, moi, je voulais rebondir sur ce que vous disiez, là, tous les deux. C'est à la fois très important et assez grave, parce qu'il y a beaucoup d'historiens qui se fondent justement sur le travail des médias pour ensuite... écrire des articles, des bouquins, etc., sur des événements historiques dans lesquels les acteurs eux-mêmes n'ont pas rédigé par eux-mêmes finalement les fondements de leur action, ni même le témoignage de leurs propres actions. Et finalement, l'histoire va s'écrire à travers cette vision médiatique. Donc, on arrive à des choses qui sont assez graves par rapport à la mémoire.
Oui, mais c'est d'ailleurs un petit peu le cas pour, en tout cas, l'histoire très, très contemporaine, comme celle du mouvement anti-précarité,
par exemple,
de 2006. Et ce mouvement-là, il a été particulièrement intéressant sur le plan de la stratégie médiatique, puisque... Il y a eu une division, à mon avis, assez radicale entre, d'un côté, les syndicats étudiants traditionnels, qui étaient peu présents sur le terrain, mais omniprésents dans les médias, absolument, par le biais de leur porte-parole, et qui ont accepté toutes les singeries médiatiques. Je pense par exemple à la porte-parole de la Confédération étudiante, Julie Coudry, avec sa casquette en velours. Alors, la casquette en velours, c'est quoi? C'est l'accessoire médiatique par excellence qu'elle conservait, y compris dans les studios où il fait 40 degrés sous les lampes flottes
et les casquette.
Et de l'autre côté, les AG et les coordinations, qui avait délibérément choisi, mais d'une manière tout à fait raisonnée et consciente, de ne pas faire émerger de tête, de ne pas faire émerger de porte-parole connus, et qui, alors à l'égard des médias, ont affiché une très grande méfiance, au point de rédiger, et là on en avait parlé dans le plan B, des chartes de rapport aux médias. Quel type de rapport aux médias doit-on entretenir dans une AG. Ils avaient, enfin, dans plusieurs facs, notamment à Montpellier, à Rennes, etc. Il y avait, à Paris aussi, c'était à Jussieu, je crois, des chartes de comportement avec les médias. Doit-on laisser les journalistes assister à une AG délibérative, etc. ou pas? Doit-on? Et ils essayaient de poser le problème et d'y répondre. Et ça, c'était assez intéressant. Donc, c'est un problème qui se pose très souvent, mais évidemment, on entend beaucoup plus la réponse « allons dans les médias et faisons ce qu'ils nous demandent » que l'autre réponse, voilà. Puisque précisément, cette autre réponse qui existe n'est pas médiatisée.
Oui, tout à fait.
Et justement, est-ce que ce n'a pas été marrant, justement, pour revenir un peu juste sur le fait sur les élections, par exemple, comme Bayrou, qui, lui, a attaqué les médias, et du fait qu'il a attaqué les médias, il était plus représenté.
Exactement, mais alors ça, c'est vraiment le point truculent de cette campagne.
Oui.
Parce que la critique des médias, c'était le boulevard ouvert à la gauche.
Oui.
Après le référendum de 2005, où la critique des médias avait quand même gagné en popularité, parce que la réalité avait montré qu'elle était tout à fait exacte, en tout cas la critique qu'on mène avec Acrimed, donc Action Critique Média, qui est une association d'information sur les médias, avec le plan B, avec d'autres. Là, la critique des médias s'était vraiment propagée comme une chose évidente, puisque ça crevait les yeux. Il y avait eu donc le référendum, il y a eu le mouvement anti-précarité de 2006, et ce boulevard ouvert devant la gauche ne l'a pas emprunté. Et c'est tout à fait bizarre, parce que cette question de la propriété des moyens de production d'information, à qui ça appartient, qui contrôle les grands moyens d'information, cette question qui est presque évidente pour la gauche, eh bien, la gauche ne l'a pas posée, et c'est un homme de droite, François Bayrou, qui s'en est emparé, et qui s'en est emparé avec un très grand succès. Parce que cette question, elle correspond aussi à une attente réelle.
Oui, aux préoccupations aussi des gens, ouais. Et donc c'est...
Et on a ce paradoxe qu'elle a servi de tremplin tactique à un homme de droite qui, par ailleurs, n'était pas du tout défavorisé dans les médias. Et j'ajoute une chose, c'est que quand vous posez la question, comme le fait Damien Douagneau dans son film, mais pourquoi vous acceptez de vous prêter à tous les simulacres quand vous êtes dans une émission? Pourquoi vous ne critiquez pas les médias quand vous allez dans les médias? Cette question élémentaire, hein, parce que c'est vrai que si si vous êtes invité demain dans un studio d'Europe 1, en tant que porte-parole, je ne sais pas, d'une grande association d'éducation populaire ou d'un parti communiste révolutionnaire ou ce genre de choses. Si vous êtes invité dans le studio de Jean-Pierre Elkabbach sur Europe 1, il est presque élémentaire de rappeler aux auditeurs que Jean-Pierre Elkabbach est le conseiller pour la stratégie média du groupe Lagardère auprès d'Arnaud Lagardère, qu'il est le PDG de la station, qu'il est aussi le président de LCP Sénat, la chaîne parlementaire, qu'il est payé à ce titre 154 000 euros par an, ce qui n'est pas rien pour quelqu'un qui ne cesse de dénoncer le privilège des fonctionnaires, etc. Bref, vous avez toute une occasion de faire de l'éducation populaire. Aucun des candidats qui est allé dans les studios d'Europe 1 ne l'a fait. Et quand on pose la question « Pourquoi est-ce que vous ne le faites pas ?», ils vous répondent « Mais si on le fait, on ne sera pas invité, on ne sera plus invité, ils arrêteront de nous inviter ». Faisons les calculs. Bayrou, qui, depuis le 31 juillet jusque grosso modo fin décembre, n'a cessé d'attaquer les médias.
Et de dire qu'il passait pas à la télé.
Et de dire qu'il passait nulle part, n'a jamais été aussi présent et n'a cessé d'être réinvité. Donc cette défense, si jamais on critique pas les médias, si jamais on critique les médias, pardon, ils nous inviteront plus. Cette défense-là est en quelque sorte atomisée, anéantie par le cas Bayrou.
Oui, par rapport donc à... Il y a de l'écho, je ne sais pas si c'est normal. par rapport donc à cette question donc de l'indépendance des médias, vous avez donc publié dans Plan B un article que je cherche, que j'avais sous les yeux tout à l'heure, voilà, c'est ça, qui s'appelle donc c'est dans le dernier, hein, Plan B, qui s'appelle, c'est bien le dernier, oui, je... pense, de juin, voilà, c'est ça, qui s'appelle donc Sarkozy, l'homme des trusts.
Alors, c'est un article qui certes critique les médias, mais aussi qui prend parti. Je veux dire, vous vous donnez donc un point de vue. C'est pas une simple critique des médias que vous proposez au lecteur. C'est aussi une prise de position. Et je trouve moi que c'est heureux. Hein, c'est pas une critique pour le coup. Et donc, pourquoi donc avoir écrit cet article, Sarkozy, l'homme des médias? Je trouve qu'il est intéressant cet article.
L'homme des trusts.
L'homme des trusts, pardon. Oui, lapsus.
Mais je sais pas, peut-être certains d'entre vous ont remarqué sur les devantures des marchands de journaux et des kiosques de presse, la couverture du magazine L'Express de cette semaine, elle est intitulée de la manière suivante: Sarkozy tient-il les médias? Alors, c'est un peu surprenant de la part d'un hebdomadaire qui est un des piliers des médias dominants d'avoir cette révélation, un peu comme Bernadette Soubirous. Là, soudain, Sarkozy tient-il les médias? Et quand cet hebdomadaire des cadres libéraux pose la question en couverture, on est fondé à se demander si c'est vraiment la bonne question. Et peut-être à s'interroger sur une autre question, c'est, mais au fait, qui tient Sarkozy?
Les médias tiennent-ils Sarkozy?
Qui tient Sarkozy? Quelle puissance, quelle force sociale ont intérêt à ce que Nicolas Sarkozy soit président de la République? Et donc cet article rappelle des choses, au fond, que beaucoup de gens savent, qui sont des choses publiques, mais que Sarkozy était l'avocat d'affaires d'un certain nombre de grands patrons du CAC 40.
Et son frère qui est...
Que son frère...
Au MEDEF.
Et puis son autre frère... responsable du MEDEF.
Et puis son autre frère aussi, qui est aussi au niveau des... comment ça s'appelle des médicaments qui tient aussi, je ne sais plus c'est quelle société, ouais, un trust de médicaments génétiques sur la génétique.
Et que donc le savoir si Sarkozy tient les médias, c'était sans doute une très bonne question au moment les médias pouvaient jouer en faveur ou en défaveur de son élection. Mais une fois que celle-ci est acquise, c'est peut-être une autre question qu'il faut se poser, c'est évidemment... quelles sont les forces sociales? Parce que ça, c'est un point important, faire une analyse de classe, qui soutiennent Sarkozy. Et bizarrement, maintenant que la question Sarkozy tient-il les médias a, dans l'immédiat, peut-être moins d'enjeux, l'autre question de savoir qui tient au sens figuré, hein, évidemment, c'est pas directement la marionnette de Laurence Parisot, mais il est évident que les intérêts des possédants sont représentés de manière exemplaire dans le programme de Nicolas Sarkozy. Et l'un des axes de cet article, c'était aussi de critiquer une forme de résistance de la bourgeoisie culturelle parisienne, notamment face à l'élection de Sarkozy, qui est de prendre la pose en faisant des grands moulinets sur la démocratie menacée, sur le fait que la liberté de la presse serait menacée par Nicolas Sarkozy.
Ah oui, c'est vrai,
grand
c'est
Dieu, comme si elle existait avant le 6 mai, comme si cette liberté de la presse était quelque chose d'entièrement acquis avant le 6 mai. Non, tout ça est un peu bouffon, et il y a aussi cette propension, je trouve... presque drôle d'une partie de l'intelligentsia parisienne qui au fond risque d'assez peu souffrir de l'élection de Sarkozy, puisque elle pourra même peut-être bénéficier d'un certain nombre de réductions d'impôts, etc. Et à se grandir en se faisant peur, c'est-à-dire à force d'exagérer la puissance personnelle. Parce que toute la critique de Sarkozy depuis le 6 mai, elle est centrée sur la personnalité, sur la psychologie, sur les colères d'un homme. Mais là n'est pas la question. La question, c'est une question de classe, de force sociale. Et en personnalisant, dans le cas d'espèce, hein, souvent c'est l'inverse qui se passe dans les médias, mais en personnalisant ce qui est le produit d'un mouvement de force sociale, on perd la signification du problème. Et les médias, dans le cas d'espèce, n'ont cessé de parler de la psychologie de Sarkozy. Marianne, c'était: Sarkozy est-il fou? Est-ce qu'il fait bien du jogging? Est-ce qu'il va pas se déplacer les vertèbres parce que ses semelles sont pas assez épaisses, etc., etc.
Est-ce qu'il est trop petit?
Bon voilà, est-ce qu'il a de grosses fesses? Enfin, tout ça a été vraiment très médiatisé, et des journaux de la bourgeoisie culturelle type Libération sont très forts pour libeller ce type de critique tout à fait inoffensif qui paraissent très virulents sur l'accessoire, hein, vraiment, pourquoi est-ce qu'il porte des baskets Nike plutôt que des No Name ou je ne sais quoi, voilà, j'exagère, hein,
parce que mais c'est des gros rebelles et, voilà. Donc,
vous affectez une très grande peur, violence quoi. Sur les questions accessoires pour faire oublier que sur les questions fondamentales, vous ne dites rien.
Ça permet des unes savoureuses, des jeux de mots, etc. Et finalement, ça rentre bien dans ce qu'on pourrait appeler le spectacle médiatique que vous dénoncez également.
Mais c'est-à-dire pour les journaux de la grande presse type Le Monde, Libération, l'important est aussi de ménager l'avenir. On ne se fâche pas sans en payer le prix. Avec ce qui représente le pouvoir.
On ne mord pas la main qui nous donne du pain.
Oui, alors, encore on pourrait dire qu'ils ne sont pas directement dépendants de l'Élysée. Ce serait oublier que l'État subventionne la presse à des hauteurs qu'on imagine mal. En 2005, je crois, les aides à la presse ont totalisé 1,5 milliard d'euros. C'est gigantesque quand vous savez que le chiffre d'affaires total du secteur de la presse quotidienne est de moins de 11 milliards d'euros. Donc ça fait plus de 10% du chiffre d'affaires de la presse quotidienne qui est issu de... Enfin, les aides de l'État à la presse représentent plus de 10% de ce secteur. Alors quand les patrons de presse disent « Oui, mais nous, on vit seulement de deux recettes, la pub et les abonnements », c'est pas vrai. La petite différence, c'est 10%, c'est toute la différence, c'est très important, parce que c'est toute la différence entre un journal bénéficiaire et un journal qui n'est plus bénéficiaire. Quand vous avez une marge bénéficiaire qui est très étroite, 10%, c'est absolument colossal. Donc, il n'y a pas... les journalistes qui vous disent « Nous, l'État, on est totalement indépendants », etc., c'est pas tout à fait vrai. D'ailleurs, dans le programme de Nicolas Sarkozy, les patrons de presse ont su faire entendre leurs intérêts. Et là, cet article dont tu parles rappelle aussi les liens qui sont multiples entre le grand patronat de la presse et l'actuel locataire de l'Élysée, hein, Bernard Arnault. Il y a Bernard Arnault, donc, qui est propriétaire de la Tribune, qui est un proche. Il y a François Pinault, propriétaire du Point. Il y a Albert Frère, propriétaire de M6. Sans parler, évidemment, de Arnaud Lagardère, qui est propriétaire de la moitié de la presse magazine en France, etc.
Enfin, Martin Bouygues,
voilà. Alors,
bien sûr, oui.
Martin Bouygues, donc, qui est à la fois le témoin de mariage de Nicolas Sarkozy et le parrain de son fils, Arnaud Lagardère, qui a décrit Nicolas Sarkozy
parrain.
Comme son frère. Oui. Voilà, bon, ces liens sont particulièrement étroits. Et pour rire, mais à la question de l'Express, Sarkozy tient-il les médias ? Pour rire, on serait tenté de répondre, les patrons de presse tiennent-ils Sarkozy, quoi.
C'est sûr, c'est la D'accord. société du spectacle de Debord, comme disait Cathy.
Absolument, les choses sont claires ainsi.
On va passer un petit peu de musique.
Tu joues pas au tiercé, tu joues pas au loto. Les seuls règles que tu as sont tatoués sur ta peau. Tu vas pas en vacances sur la Côte d'Azur. Tu voyages en tête et pour oublier tes blessures. Tu n'as pas épargné pour avoir un logement. Tu squattes un peu partout dehors le plus souvent. Tu n'as pas emprunté pour un bon frigo. Fais gaffe car sans polluer on peut tout dire écolo. Tu ne bois pas d'alcool, tu ne fumes pas le tabac. La drogue que tu prends n'est pas taxée par l'État, non. Tu vas pas au McDo. Tu deviens végétarien. Tu ne remplis pas de bouffe ton caliche chez Carrefour. T'as pas la carte d'accord, tu n'as que la carte de séjour. Tes frères sont pas ton nom, je t'ai vu ton démodé. C'est pas un anneau qu'on tue pour un cantonné. Mauvais, mauvais, mauvais consommateur. Tu prends la France gagne en a.
poser. Un jour faudra que ça cesse si tu veux être intégré. Ils ont prévu pour toi un programme spécial pour te réadapter à leur conduite sociale. Si jamais tu craques pour sauver la morale, ils iront chez Leclerc acheter ta terre tombale.
Fort et reclus à l'Elysée sur 102.3 FM et 95.9 sur Radio Plaisance. C'était toujours debout, c'est ça, mauvais c'est consommateur.
Mauvais, voilà.
Voilà, donc.
Donc on va revenir un peu sur le livre que tu as écrit, donc qui est...
Libération de Sartre à Rothschild.
Voilà, donc ça a été, il s'est arrêté en 2005, c'est ça ?
Le livre est paru, ouais. Oui, en novembre 2005. Et depuis,
c'est de pire en pire.
Depuis, bah voilà, Serge Joly a été une espèce de caricature. Bon, a été viré, quoi, comme un malpropre par son actionnaire principal, Édouard de Rothschild. Et oui, le bouquin essaye de raconter cette espèce de trajectoire bizarre, à la fois un peu bouffonne et en même temps très symptomatique de ce qu'est la gauche française, d'un journal. Qui avait commencé au sommet de la contestation en 73, au moment, en même temps où le rapport de force entre le capital et le travail était peut-être le moins défavorable depuis très longtemps au travail, puisque faut se rappeler qu'en 72, c'est l'année où il y a eu le plus de grèves, le plus de freinages, le plus de signatures d'accords de branche apportant un certain nombre de corrections à la mainmise des employeurs sur les salariés, etc.
On est à la fin de ce qu'on appelait les 30 glorieuses. Bon, donc
Puis il y a ce rapport de force quand même, avec un nombre de grèves qui n'a jamais été aussi important qu'à ce moment-là. Et Libération, qui est souvent présenté par les journalistes comme le journal de 68, un peu. Bon, c'est un peu ridicule, c'est pas le journal. D'abord, c'était 5 ans après. Donc il n'y a pas un lien tout à fait direct. Et puis c'était aussi, surtout d'ailleurs au début, un journal d'enquête sociale. C'était un journal qui devait parler de... Alors c'est même les mots du premier éditorial de La France d'en bas. C'est drôle, c'est un éditorial de Serge Joly qui a été donc ensuite repris.
En province, il y avait des collectifs Libération. Moi je me souviens, il y en avait même un petit à Périgueux. Donc il y avait des... C'était pas des correspondants officiels, mais c'était des gens qui étaient regroupés autour du titre et qui envoyaient des infos, qui donnaient des points de vue. Puis il y avait des trucs sympas, je veux dire. Je me souviens des annonces, bon, notamment par rapport au taulard. Bon, ça a même été important, je pense, par rapport au mouvement dans les prisons. Et à cette époque-là, il y a eu le comité d'action des prisonniers, bon, etc. Et Libé, là, jouait un rôle important. Puis il y avait des choses assez sympas, ce qu'on avait... Hein, les notes de la claviste. Donc c'était la claviste qui rajoutait son petit point de vue. Bon, aujourd'hui, il n'y a plus de claviste, hein, donc...
c'est-à-dire que Libération, c'est pas seulement le journal des quelques personnes qui s'en sont tirées par le haut en ayant renié tous leurs principes, et donc dont on connaît les noms, etc. Mais c'était surtout un journal politique, mais dont l'une des dimensions principales a été complètement occultée par la suite, et cette dimension, c'était la critique des médias. Libération était un journal en acte de critique des médias. Et d'ailleurs, l'aspect critique des médias est omniprésent dans le manifeste de lancement de Libération, dont je lis un extrait, je cite... Aujourd'hui, la presse quotidienne donne la parole au patronat, aux politiciens, aux puissants, qui d'ailleurs financent cette presse, et elle se contente, quand elle ne peut pas faire autrement, de citer des bouts de phrases d'ouvriers et de paysans. Le quotidien Libération donnera la parole au peuple, et citera des bouts de phrases de puissants. Il renversera le monde de la presse quotidienne.
C'est clair, oui.
Alors cette dimension critique des médias était très présente. D'ailleurs, vous trouvez encore en 1975, dans les colonnes de Libération, des articles de Serge Julie qui comptabilisent de manière narquoise les pages de publicité dans le Nouvel Observateur, en disant grosso modo, ce magazine est vraiment pourri, quoi. Bon, aujourd'hui, on pourrait faire la même opération avec Libération, et il n'y a plus de critique radicale de la publicité depuis que ce journal a précisément ouvert ses colonnes à la publicité. Et le bouquin raconte cette transformation d'un journal en son inverse. Et cette transformation était très rapide, grosso modo, c'est entre 81 et 83, où les trois principaux piliers qui organisaient la vie à Libération, c'est-à-dire tout le capital aux salariés, c'était un journal autogéré, égalité des salaires, pas de publicité dans les colonnes, ces trois piliers-là, complétés par un mode de fonctionnement qui était la décision appartient à l'Assemblée Générale, ont été remis en cause les uns après les autres. Et en cela, ce qui est intéressant dans l'histoire de Libération, c'est que sa normalisation a précédé de quelques mois celle de la gauche de gouvernement française, qui, elle, s'est normalisée en 1983 en acceptant le tournant libéral que lui imposaient les marchés européens, notamment. Donc en mars 83, lorsque la gauche accepte de maintenir le franc dans le système monétaire européen et de bloquer les salaires, etc., un an plus tôt, Libération a anticipé ce tournant-là. Et à vrai dire, depuis, il a toujours maintenu cette espèce de ligne qui a été la définition même du Libé des années 80, à savoir très grande orthodoxie sur les questions économiques, c'est-à-dire oui à la rigueur, non aux nationalisations, oui à Maastricht, oui au plan Juppé, oui au plan Fillon en 2003. Et de l'autre côté, pour contrebalancer ce conservatisme économique, une ligne culturellement avancée, c'est-à-dire on célèbre la culture, les transgressions culturelles qui étaient bon, surtout celles des années 60, mais qui paraissent encore un peu transgressives dans les années 80. On publie des BD porno, on fait grosso modo l'apologie des chanteurs qui sont encore un peu sulfureux, etc., etc. Et ça a été la ligne qui a été définie comme libérale-libertaire, libérale sur le plan économique et libertaire sur les questions de société, d'art et de culture. C'est très chic. Et ça permet, et c'est ça qui est très intéressant, ça permet d'acclimater à gauche, sous couvert de modernité culturelle, les thèmes économiques de la droite.
Voilà.
Absolument.
C'est fort, c'est très fort. Enfin voilà, c'est fini, je suis désolée.
Encore une minute, ouais.
Encore une minute.
Ouais, bon, on va. C'est fut court, il a bien fallu deux heures.
C'est vrai.
Ouais.
On ne te lâche pas, mais c'est vrai qu'on aurait dû faire deux heures aussi. Mais c'était très très intéressant, je te remercie beaucoup d'être venu.
On continuera la prochaine fois. Et puis...
Oui, toi.
Non, c'est bon, ouais, ça va être, je pense que ça va être bon. Là. Sinon, on peut rappeler vite fait le livre.
Ah oui, Libération de Sartre à Rothschild. Et voilà, dans toutes les librairies, tout ça.
Éditions Raison d'agir.
Voilà, aux éditions Raison d'agir.
Au revoir tout le monde.
Au revoir.
Oui. Au revoir.